Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de faire un bout de chemin avec vous jusqu'à 14h. On part observer la vie des autres à travers le monde. Et notre première étape sera bruxelloise, à quelques jours du sommet européen. On vous raconte comment travaille la France au cœur des institutions de l'Union européenne. La représentation permanente, c'est une équipe de spécialistes qui a beaucoup de pouvoir, mais que personne ne connaît. Alors on va les rencontrer. On ira aussi en Allemagne, dans des ambulances super équipées, pleines de haute technologie, et avec un soignant seulement, un exemple plutôt concluant de télémédecine qui peut se révéler fort utile dans les déserts médicaux par exemple. La révolution soudanaise réprimée, on en parlera aussi avec notre invité Rachid Saïd Yagoub, porte-parole de l'association des professionnels du Soudan. Ce sont eux, les civils, qui ont fait chuter le dictateur Béchir et refusent aujourd'hui que les militaires gardent le pouvoir. On s'intéressera aussi à la place des femmes dans l'Église catholique, un combat de longue haleine pour certaines femmes qu'on rencontrera à Rome et au Vatican. Nicolas Caro a rencontré un superbe auteur écossais, William Boyd. Quant à Joseph Chovanec, il fait des rêves d'oasis et de sources d'eau pure. Il les partagera avec nous juste avant 14h. Les carnets sont ouverts, direction Bruxelles. Cette semaine, on a beaucoup parlé de l'influence française au Parlement européen, notamment à cause de l'affaire Nathalie Loiseau. L'ex-tête de liste aux européennes a dû renoncer à présider le groupe centriste après avoir tenu des propos très peu sympathiques sur ses alliés européens. Au total, les Français ont envoyé 74 eurodéputés à Strasbourg et Bruxelles, mais ces élus ne sont pas nos seuls représentants dans la capitale de l'Union. En réalité, près de 200 diplomates et fonctionnaires s'y activent tous les jours pour défendre les intérêts de la France. Et aujourd'hui, on va à leur rencontre avec vous, Isabelle Horry. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Quand vous m'avez proposé de nous faire découvrir la représentation permanente de la France à Bruxelles, j'avoue que je n'y mettais aucun visage. C'est une sorte d'ambassade, mais très spécifique en fait.
Oui, c'est vrai que la représentation permanente, la RP comme on l'appelle tous ici, est dirigée par un ambassadeur, mais son travail n'a rien à voir avec celui de ses collègues à Londres ou à Washington. Lui n'est pas là pour assurer le rayonnement de la France, non, il négocie les textes européens avec ses 27 homologues des autres pays de l'Union européenne. Il est la voix de la France quand les ministres ou le président de la République ne sont pas en ville, c'est-à-dire la plupart du temps. Aujourd'hui, le représentant permanent s'appelle Philippe Léglise-Costa et c'est un bourreau au travail qui dirige une équipe conséquente.
Ici, nous sommes dans mon bureau, c'est le bureau du représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. C'est l'un des bureaux de notre immeuble où il y a environ 200 personnes qui travaillent. Alors, une journée classique, parce qu'il y en a qui sont plus lourdes que d'autres, une journée classique commence à 7h30, elle se termine vers 11h. 23h, oui, pas 11h du matin. La journée est très intense, il y a des négociations, il y a énormément de rencontres, il y a énormément de travail, pour que, surtout les sujets, il y en a beaucoup, on puisse être présent. Et puis, il y a tout le travail de coordination, parce que chacun est excellent, chacun suit son dossier, et il faut en même temps assurer la cohérence. C'est ça aussi qui fait le caractère passionnant de ce métier.
Isabelle, du coup, ce ne sont pas les dirigeants politiques élus qui représentent la France ? On a pourtant l'impression que tout se décide pendant les sommets avec les chefs d'État.
Alors si, bien sûr, hein, les ministres ou le président sont là au début du processus pour donner des impulsions et puis aussi à la fin pour trancher les choix politiques difficiles. Écoutez.
Pour préparer ces décisions, il faut travailler au fond les textes, résoudre ce qui peut l'être avant que ça n'arrive au niveau politique. Il faut pouvoir identifier nos intérêts et donc il y a une relation étroite entre la représentation permanente et l'administration française à Paris et le gouvernement pour savoir ce qui est essentiel. Cette interaction, quelques jours si c'est urgent, peut durer des mois si c'est un texte très profond comme une loi en France. Progressivement, nous réglons les problèmes, nous préparons les textes et au moment où arrive le Conseil des ministres, au moment où arrive le Conseil européen avec le président de la République, alors il lui revient de prendre les décisions les plus importantes. Sans ça, ça serait évidemment désordonné et ça ne permettrait pas aux chefs d'État et de gouvernement, aux ministres, de se concentrer sur l'essentiel.
Voilà, et donc entre-temps, dans l'ombre, eh bien, ce sont les représentants permanents et leurs équipes qui travaillent. C'est fascinant d'ailleurs parce qu'à Bruxelles, tout le monde les connaît, ce sont vraiment des acteurs clés, alors que voilà, ils sont totalement inconnus du grand public.
Je vous confirme, et je crois que c'est la première fois que j'entends la voix de ce représentant de la France. Ils travaillent sur quel type de dossier ?
Bah absolument tous les thèmes européens, ça va des affaires étrangères à l'économie en passant par les transports, l'environnement. En fait, la RP, c'est comme un gouvernement en petit. Hein, il y a 70 à 80 conseillers qui couvrent tous les sujets. Alors, il y a des diplomates, mais aussi des policiers, des juges, des spécialistes des différents
D'accord.
ministères. Alors, par exemple, Bogdan Popescu, lui, c'est le conseiller énergie de la RP. Ce jeune ingénieur défend les positions françaises pour tous les textes législatifs européens sur l'énergie et le climat.
On a des négociations à très fort enjeu. On sent que nous avons un impact, typiquement lorsqu'on voit les manifestations au nom de l'urgence climatique. On sait que ce petit travail qui peut avoir l'air très minutieux aura un impact bénéfique pour résoudre ou essayer d'adresser ces problèmes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement motivant au jour le jour, qui nous permet de nous lever le matin alors que la veille, on a pu négocier jusqu'à très tard dans la nuit. Ensuite, il faut voir que l'ambiance de travail est vraiment très positive. Tout le monde est à la recherche d'un compromis qui sera favorable au sens le plus large possible. On a quand même l'impression de construire l'Europe un peu tous les jours et donc c'est quelque chose de très stimulant.
Mais alors, Isabelle, il négocie avec qui toute la nuit?
En fait, il négocie avec les conseillers énergie des autres pays. C'est très organisé. Il faut comprendre qu'en haut, il y a les chefs d'État. En dessous, bah, dans ce cas, il y a les 28 ministres de l'énergie. Ensuite, il y a les 28 ambassadeurs. Et donc, au-dessous, il y a les 28 conseillers énergie. Et eux, ce sont les experts, les premiers qui prennent un texte en main quand il sort de la Commission européenne. Puis ça monte au niveau suivant quand ils sont bloqués sur certains points. Mais évidemment, tout ça se passe toujours en lien très étroit avec les capitales. Écoutez.
On est en quelque sorte au point étroit du sablier ici, entre d'un côté les institutions européennes et de l'autre côté les autorités françaises. Tous les jours, je me réunis avec mes homologues des différents États membres. Si nous ne nous voyons pas en personne, peut-être que nous échangeons de manière électronique ou...
Vous avez un WhatsApp du groupe de l'énergie?
Il y a un WhatsApp du groupe de l'énergie, effectivement. On ne divulgue pas des informations secrètes via le WhatsApp du groupe de l'énergie, mais nous avons effectivement ce genre de moyens de communication entre nous.
Dans des groupes WhatsApp, ça a l'air sympa comme ambiance.
Bon, c'est l'Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 28 conseillers, ils essayent de trouver des solutions ensemble. Ce n'est pas un jeu d'échecs où il y a un gagnant et un perdant. C'est ce que m'a expliqué Bogdan Popescu. Les conseillers, d'ailleurs, ils parlent souvent avec des trémolos dans la voix de leur groupe. C'est un peu leur famille européenne, en fait.
Mais tout ce travail essentiel, on le comprend, est-ce qu'il est transparent? Par exemple, est-ce que vous pouvez y assister ou est-ce que ça se passe à huis clos?
Non, c'est très opaque. Contrairement au Parlement européen où les réunions des commissions sont publiques, les réunions au Conseil, donc c'est la maison hein, où se réunissent les représentants des 28 pays, elles se font porte-close. Et c'est d'ailleurs intéressant après de voir comme chaque pays essaye d'expliquer comment il a négocié au mieux dans ses négociations à huis clos à Bruxelles. Toutes les RP ont un ou une porte-parole. Alors pour la France, c'est Mathilde Félix Paganon. Son travail n'est pas simple parce que si à Paris, il y a un seul gouvernement qui parle aux journalistes, à Bruxelles, elle a de la concurrence.
À Bruxelles, il y a une multitude de sources. Il ne s'agit jamais de travestir la réalité. L'idée, c'est vraiment d'expliquer la façon dont on pense que nos positions sont défendues, en ayant toujours à l'idée que l'ensemble de nos partenaires, eux aussi, communiquent, disent ce qui se passe. Ça fait vraiment partie des paramètres qu'il faut avoir en tête, qu'évidemment, on n'est pas une voix unique et qu'on est une voix parmi d'autres, qu'en même temps, on est celle de la France, donc elle a un certain poids, mais que vraiment, il faut être justement convaincu, convaincant, mais lucide et relativement transparent.
Voilà, une voix parmi d'autres, même si c'est celle de la France. Une petite leçon de modestie au passage.
Oui, le représentant permanent aussi, d'ailleurs, a une phrase assez jolie. Il dit qu'il a le sentiment de vraiment réussir sa mission quand, en défendant les intérêts français, il fait aussi, en même temps, avancer l'Europe.
Eh oui, pas mal comme objectif. Et donc, cette fin de semaine, quand les chefs d'État se retrouveront à Bruxelles pour leur sommet, on aura une petite pensée pour ceux qui, en coulisses, auront travaillé d'arrache-pied pour tout préparer pendant des semaines. Merci beaucoup Isabelle d'avoir mis la lumière sur les coulisses de l'Union européenne et ceux qui travaillent dans l'ombre comme ça. À bientôt.
À bientôt Sophie.
Europe 1.
Et on file chez nos voisins allemands pour expérimenter avec eux un nouveau système de télémédecine avec des stéthoscopes connectés, des caméras dans les ambulances. Quand il y a moins de médecins et qu'il faut aller vite, ça aide.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est avec vous Sophie Larmoyer jusqu'à 14h sur Europe 1. À la question comment répondre au manque croissant de médecins, certains misent sur la télémédecine.
Depuis plusieurs semaines, des mouvements de grève se succèdent dans les services d'urgence de plusieurs hôpitaux en France. Manque de moyens, manque de médecins et de personnels médicaux aussi. L'une des solutions, dans certains cas, pourrait être la télémédecine. En Allemagne, une douzaine d'expérimentations est menée actuellement sur tout le territoire. Souvent, c'est juste la mise en relation à distance des patients avec leurs médecins via des webcams ou sur des sites internet. Mais il y a aussi des projets plus ambitieux, plus spectaculaires, comme ce qui est testé dans ce centre de secours de Straubing en Bavière, près de la frontière tchèque. Là, c'est un service d'urgence complet qui s'est équipé pour la télémédecine, y compris les 21 ambulances. Reportage.
Le 112 a été appelé pour une chute dans l'escalier d'une entreprise. Jürgen, le secouriste arrivé sur place, se connecte immédiatement avec une urgentiste grâce à une sorte de gros téléphone portable. La docteure lui donne un premier diagnostic et les gestes d'urgence à effectuer. Une fois le patient transporté dans l'ambulance, la communication est permanente entre l'équipe sur le terrain et l'urgentiste qui analyse en temps réel toutes les données reçues.
Oui, bonjour.
Salut Bettina, je suis dans le véhicule maintenant. Je vais activer la caméra.
Oui, vas-y.
Je décale le patient jusqu'à la caméra, ça roule ?
C'est bon.
À tout de suite.
Dans l'ambulance, Jürgen jongle avec les outils high-tech.
Avec ce stéthoscope, par exemple, je peux, par le Wi-Fi, retransmettre au docteur les battements du cœur ou le souffle du patient en direct. Il peut écouter en même temps.
Au plafond, une caméra rotative enregistre tout ce qui se passe. Le secouriste doit demander, c'est obligatoire, l'accord du médecin avant d'injecter tout médicament. Pour éviter les malentendus, il doit aussi présenter la fiole à l'objectif de la caméra.
4 mg.
Ok, c'est bon, je le note.
Oui, oui, j'ai vu.
À l'autre bout de la ville, depuis la salle de télécommunication, le médecin de permanence dirige les secours, parfois plusieurs équipes en même temps. Ce jour-là, c'est Bettina Schmeller qui est de service. Elle préfère travailler debout, l'œil sur 6 écrans en même temps. Le docteur Schmeller, urgentiste depuis 13 ans, était réticente au départ. En poste ici depuis le début de l'année, elle se dit finalement convaincue par la télémédecine, essentiellement pour des raisons de gain de temps.
Le patient reçoit son médicament en 5 minutes au maximum. Quand il faut, parfois plus de 20 minutes pour que le médecin arrive sur place, surtout dans la campagne reculée. Ce sont 20 minutes précieuses de gagner.
Et puis bien souvent, tous les secouristes le savent, il n'est pas forcément nécessaire qu'un médecin fasse le déplacement. Donc on gagne du temps et l'organisation du service est plus efficace. Des atouts incontestables dans une région où le manque de médecins et la fermeture de petites structures hospitalières se fait de plus en plus ressentir. Devant l'hôpital de Straubing, près d'un an après le début de ce test, les patients se disent plutôt convaincus par le dispositif. Anna, la petite cinquantaine, a même échappé à la mort grâce à la télémédecine après un AVC.
Normalement, il aurait fallu que je parte en hélicoptère. Alors que là, avec le diagnostic à distance, j'ai pu être prise en charge ici, tout de suite. La télémédecine m'a sauvée et me voilà, toujours en vie.
Si ce système semble adapté pour les interventions du quotidien, la télémédecine serait moins indiquée en cas de gros accidents, par exemple, avec de multiples victimes. C'est l'avis de Gerhard Kleberger, le chef du centre de secours de la Croix-Rouge de Straubing.
Il y a des limites à tout. Un système efficace dans toutes les situations, ça n'existe pas. En cas d'attentat, on est sur un déploiement d'une toute autre ampleur et il faut passer à une médecine de catastrophe avec des équipes sur place.
Le ministère régional de l'Intérieur, qui pilote ce projet, doit décider à la fin de l'été s'il est maintenu et, le cas échéant, étendu au reste de la région. D'autres lenders se disent d'ores et déjà potentiellement intéressés. Cela dit, il y a encore des obstacles avant de systématiser la télémédecine en Allemagne. Le coût des équipements, bien sûr, et puis surtout l'état des télécommunications. L'Allemagne a un réseau Internet déplorable. Le pays est moins bien classé que le Cambodge ou l'Albanie. Il faut investir massivement car il est vital que la communication entre les médecins et les ambulances soit absolument parfaite. Dans le secteur médical aussi, la 5G est un enjeu majeur. Straubing en Bavière, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà, après ce reportage, je me tourne à nouveau vers Hélène Kohl pour aller un peu plus loin. Bonjour Hélène.
Bonjour Sophie.
C'est pas un hasard, m'avez-vous dit, si cette expérience est menée dans cette région-là?
Effectivement, on est en Basse-Bavière, c'est la zone couverte par l'expérimentation, une région de 340 000 habitants, une zone mi-urbaine, mi-rurale, frontalière, et donc qui présente les caractéristiques typiques des déserts médicaux à l'allemande. Alors en Allemagne, il faut savoir que 20% des hôpitaux ont fermé en 25 ans, et puis à cela s'ajoute le phénomène de vieillissement de la population. On a des patients de plus en plus fragiles, et des médecins qui eux-mêmes ne sont plus tout jeunes et qui partent à la retraite. Ouais. Donc on a là en fait un bon terrain pour tester ce dispositif, et puis en plus la Bavière, c'est le land le plus riche d'Allemagne, donc il y a aussi de l'argent pour le mettre en place, car évidemment tout ça, ça a un coût.
Alors justement, on a envie de savoir combien ça coûte.
Alors, un véhicule d'urgence normalement équipé, c'est déjà 150 000 euros. Alors, pour avoir une ambulance comme celle qu'on avait dans le reportage à Straubing, vous doublez la facture. Ouais. Et puis, si vous rajoutez des appareils très spécifiques, par exemple pour faire des électrocardiogrammes retransmis en Wi-Fi, eh bien, c'est 30 000 euros supplémentaires. Ici, à Berlin, on teste en ce moment une ambulance avec un scanner et là, on frôle le million d'euros.
Mais on l'a entendu dans le reportage, en théorie, ça permet aussi de faire des économies.
Oui, ce système permet clairement une meilleure répartition des patients aux urgences dans les hôpitaux de la région. Donc, on évite la saturation des services, les attentes interminables, ce que les collègues français ont dénoncé cette semaine. Et d'ailleurs, les caisses d'assurance maladie allemandes, elles ont vite fait le calcul et elles ont accepté de cofinancer ce projet en Bavière parce que la rationalisation des soins, c'est clairement dans leur intérêt. Alors, au début de l'automne, on fera le bilan de cette expérience, fin d'été, début d'automne. Il y a quelques mois, un rapport à mi-étape a déjà été dressé et il pointait favorablement l'immense gain du temps et l'efficacité des soins. C'est pas négligeable quand on sait par exemple qu'en cas d'accident cérébral, près de 2 millions de cellules nerveuses sont détruites chaque minute. Là, clairement, la vie des patients peut clairement en dépendre.
Ouais, expérimentation très intéressante donc pour les villes et les campagnes, les déserts médicaux dont vous parliez. Merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir, Hélène. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt, Sophie.
Europe 1.
Peut-être êtes-vous un peu en panne de bons bouquins en ce moment, qu'à cela ne tienne. Nicolas Carreau arrive avec un William Boyd. A tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h20, c'est l'heure de notre rendez-vous littéraire. Un livre dans le monde avec vous, Sophie Larmoyer, et avec Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Cette semaine, vous nous emmenez un peu partout, à Vienne, en Suisse, en Italie et à Saint-Pétersbourg, avec un écrivain écossais, mais que vous avez rencontré ici en France.
Et pas n'importe quel écrivain, William Boyd. Il a reçu le week-end dernier le prix Fitzgerald à Juan-les-Pins, mais j'y reviendrai. Le prix, en tout cas, a récompensé son roman « L'amour est aveugle, au seuil, nous sommes en 1894 ». L'histoire s'ouvre avec Brody Moncur. Il est jeune, Brody, il a 24 ans, mais ça fait déjà 6 ans qu'il travaille chez un fabricant de piano d'Édimbourg, les magasins Shannon. Brody est accordeur de génie. C'est une sorte de surdoué à l'oreille absolue. Or, il se trouve qu'il existe depuis un an un nouveau magasin Shannon à Paris, mais il ne marche pas. Alors, le patron envoie Brody pour redresser l'affaire.
À seulement 24 ans, bon courage.
Comme vous dites, mais ça l'arrange en fait. Ça permet à Brody de fuir un père cruel, c'est déjà pas mal. Et en plus, ça marche puisqu'il fait des miracles là-bas. Il est non seulement un génie de l'accordage de piano, mais aussi manifestement un virtuose du marketing. Il a l'idée de faire jouer de grands pianistes, par exemple, sur les Shannon pour faire de la pub. Bon, bref, tout va pour le mieux pour lui, mais on ne fait pas un bon roman si tout se passe bien.
Non.
Alors il rencontre John Kilbaron, un immense pianiste de l'époque, mais Kilbaron a un problème, il souffre atrocement à cause d'une tendinite. Or Brody laisse les touches de piano avec de petits poids de plomb pour alléger les touches en quelque sorte. Génie, je vous dis. Alors Kilbaron le prend à son service puisque maintenant il est indispensable et il l'emmène avec lui.
C'est encore mieux, mais vous avez dit qu'on ne faisait pas un bon roman si tout se passait bien.
Ça déraille, alors... ne vous inquiétez pas. Quand Brody tombe amoureux de Lika, une jeune cantatrice russe sublime, qui est aussi la maîtresse de Kilbaron. Oups, ça va évidemment lui créer de gros problèmes. Ajoutez à ça qu'il souffre de la tuberculose et le tableau est tout de suite moins idyllique. Brody suit Kilbaron et Lika dans la grande tournée du pianiste. Il vit son histoire d'amour clandestinement jusqu'à ce que le frère de Kilbaron, qui est un vrai sale type, qui est l'âme damnée du pianiste, si vous voulez, dénonce Brody. Et la colère du pianiste est terrible. Je ne peux pas tout vous raconter, sinon je spoil, je divulgâche, mais Brody va devoir fuir.
Et donc, voyage.
Exactement. Et on le suit dans sa cavale, dans toute l'Europe et jusqu'en Inde. On traverse les pays, mais on traverse aussi l'histoire, les grands événements de l'époque. C'est une sorte de tour du monde musical et amoureux.
Et William Boyd vient donc d'être récompensé pour ce roman.
Il a reçu le prix Fitzgerald le week-end dernier. C'était à l'hôtel Bellerive à Juan-les-Pins, les pieds dans l'eau. C'est un lieu extraordinaire. Bon, bah d'abord parce que c'est un superbe hôtel face à la mer, mais surtout, c'est dans ses murs qu'a vécu Fitzgerald lui-même, Scott Fitzgerald, dans les années 20, l'auteur de Gatsby le Magnifique et sa femme Zelda. C'est là qu'il a écrit Tendre et la nuit. C'est donc un haut lieu de pèlerinage pour les Fitzgeraldiens dont je suis. William Boyd aussi. Il était donc à Juan-les-Pins s'est peint le week-end dernier et il était sincèrement ému d'être là.
Pour plusieurs raisons, parce que je connais l'endroit, Juin-les-Pins. J'étais étudiant à l'université de Nice, qui est pas loin, et qui était une année incroyable dans ma vie. Et en plus, parce que Fitzgerald était l'écrivain que j'ai lu à très jeune, à l'âge de 14-15 ans, qui m'a beaucoup touché, parce qu'il a écrit des nouvelles au sujet d'un adolescent. Moi, j'étais adolescent. Et je pense que maintenant, je rappelle ce moment, et je pense que c'était le moment quand j'étais touché par la puissance de la littérature. Donc, grâce à Scott Fitzgerald, peut-être, je suis devenu écrivain. Mais vraiment, il était un écrivain très important dans ma formation, quoi.
C'est dingue, il parle un français impeccable.
Et parce qu'il vit en France, en fait, une partie de l'année avec sa femme Suzanne. Ils sont complètement fous de la France.
Je suis follement francophile. J'ai eu une maison en France. On a eu cette maison pendant 30 ans. Donc, il y a un côté français de ma vie qui est très important, aussi important que ma vie à Londres. Je suis écossais, mais je vis pas en Écosse, mais je vis à Londres et en France. Donc, je suis divisé un petit peu.
Divisé, mais il fait l'unanimité. Hein. William Boyd, donc, et son roman L'amour est aveugle au seuil, que vous m'avez bien donné envie de lire, malgré le divulgachage. On dit ça, non ? J'aime bien ce mot. Traduction.
Moi, je préfère spoiler. Traduction, Isabelle Perrin.
Merci beaucoup, Nicolas. Europe 1. À suivre, on reparle du Soudan. On pensait que les Soudanais avaient fait le plus dur en faisant tomber le dictateur Béchir, mais un autre militaire a pris le relais. Reportage et invité dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Sophie Larmoyer, il est 13h27. On prend ensemble la direction du Soudan, où les civils ont été à nouveau réprimés depuis deux semaines.
Au moins 120 morts, des centaines de blessés, des viols, des exactions. C'est le bilan provisoire du démantèlement du gigantesque sit-in qui était installé devant le QG de l'armée à Khartoum. La révolution soudanaise, qui avait démarré en décembre dernier à cause du triplement du prix du pain, est devenue très vite un mouvement politique, toujours pacifique. Un mouvement qui avait obtenu une grande victoire le 11 avril dernier, le limogeage du dictateur de 30 ans, Omar el-Béchir. Bonjour, Rachid Saïd Yagoub.
Bonjour.
Vous êtes venu déjà plusieurs fois ici nous parler de cette révolution soudanaise. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate, aujourd'hui journaliste en exil en France et surtout porte-parole de l'Association des professionnels du Soudan. C'est le principal acteur de la contestation civile fondée au départ par des médecins, des avocats, des journalistes et puis rejoint par d'autres professions. Alors vous êtes rentré cette semaine en France après avoir pu, pour la première fois depuis 10 ans, retourner dans votre pays, le Soudan. Mais cette parenthèse d'expression démocratique, si je peux dire ainsi, après la chute de Béchir, a été de courte durée. Le monstre de la dictature a plusieurs têtes au Soudan.
Oui, c'est sûr qu'on a réussi à se débarrasser du général al-Béchir, mais le régime du général al-Béchir, le régime militaro-islamiste, est toujours là. Avant, il était dirigé par le général al-Béchir, maintenant il est représenté par le conseil militaire transitoire du général al-Burhan et du général Hemeti, le chef des Janjaweed, qui sont devenus une partie de l'armée. Ils étaient intégrés à l'armée et ils sont maintenant une force officielle. Et c'est où qui contrôle la ville de Khartoum aujourd'hui. On les voit partout dans la ville.
Les Janjaweed dont vous parlez, c'est donc cette milice qui était déjà responsable d'atrocités au Darfour.
Voilà, c'est les milices qui étaient responsables.
Et ce sont eux qui sont intervenus le 3 juin, c'est
ça ? Voilà, c'est les milices qui ont fait des exactions à Darfour qui ont causé la mort d'à peu près 300 000 personnes selon les chiffres de l'ONU, beaucoup plus selon les estimations des organisations de droits de l'homme au Soudan. Et ces mêmes milices ont été appelées à Khartoum par le conseil militaire transitoire, et c'est eux qui ont réprimé dans le sang, et c'est pour ça que le bilan était très très lourd, malgré le fait que les manifestants étaient désarmés.
Des tentes ont été brûlées.
Ils ont brûlé
avec
les
gens
tentes, ils ont violé les filles, ils ont tué les gens, ils ont utilisé les armes lourdes contre des protestataires civils qui dormaient à ce moment-là de la matinée, parce qu'ils ont attaqué vers 5h du matin et tout le monde dormait dans les tentes. Ils ont attaqué à ce moment-là. Il y avait au moins 120 morts. Ça, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui.
Il y a beaucoup de disparus en plus et on continue à retrouver des corps dans le Nil.
Dans le Nil et partout dans la ville. On pense qu'il y a des fosses communes aussi dans quelque part à Khartoum. Et c'est pour ça qu'on a demandé la constitution d'une commission d'enquête internationale, parce qu'on ne fait pas confiance à l'armée ni à la justice soudanaise qui est sous contrôle de l'armée.
Alors je dis le porte-parole du conseil militaire transitoire a dit qu'il y avait eu des erreurs dans le plan de démantèlement du sit-in, qu'ils allaient chercher les responsables. Enfin, on a l'impression qu'ils reconnaissent enfin que ça ne s'est pas passé comme
oui,
ça aurait dû
ils
se passer.
Pas quand même, ils essayent d'éviter de reconnaître. Hein. Ils ont dit au début qu'ils ne voulaient pas attaquer le site de sit-in, ils voulaient attaquer un autre site et ça a débordé sur le site de sit-in. Maintenant, ils disent qu'ils ont planifié ça, mais il y avait des exactions qui étaient commises par les soldats qui n'ont pas reçu l'ordre de faire ça ou d'utiliser les balles réelles pour disperser le sit-in. Mais c'est pour ça, nous, on demande pour mettre la lumière sur toute la situation et éclaircir les responsabilités de constituer une commission d'enquête internationale. Et on a reçu l'appui de l'Union européenne, des Américains et de l'Union africaine pour ça.
Alors, les Soudanais demandent qu'un gouvernement civil prenne les rênes du pays pour le reconstruire. Et là encore, vous l'aviez dit, hein, Rachid Saïd Yagoub, ici même dans ce studio, en première ligne de ces révolutionnaires. Depuis des années, il y a de nombreuses femmes de toutes conditions sociales. Grâce à Ariane Lavrieux, qui était au Soudan juste avant la répression du sit-in, on va rencontrer certaines de ces femmes remarquables. Reportage.
Pacifique. On est pacifique, les amis.
Pacifique, pacifique. Les criminels, c'est le régime. Pacifique, pacifique. Le criminel, c'est le régime.
Un mégaphone à la main, Omnaïm El-Nour a pris la tête du cortège qui harangue l'armée à quelques mètres de son quartier général. Difficile de la couper dans cet élan. Alors un peu plus tard, on retrouve cette psychiatre de 34 ans à l'ombre de la tente de l'Union des Soudanaises, la plus ancienne organisation féministe du pays.
C'est en tant que femme qu'on a été attaquées. La police nous a traités de salopes, de prostituées. Ils nous frappaient en nous lançant « Qu'est-ce que tu fais dans la rue ? Tu n'as pas d'honneur, pas de morale. » Moi, je suis descendue dans la rue parce qu'un jour, ils ont arrêté tous les membres de l'Union des Soudanaises, sauf trois. Ils ne les ont pas arrêtés dans des manifs. Ils sont venus les chercher chez elles, à leur travail. Alors, j'ai dû prendre le relais. D'habitude, les femmes restent en retrait derrière les garçons. Mais quand elles me voient à la tête d'un cortège de jeunes hommes, ça leur donne du courage pour me rejoindre.
Samia Hergaoui manifestait devant le tribunal de Khartoum un mois avant la chute d'Omar el-Béchir. Arrêtée par les forces de sécurité, cette avocate est restée dans les geôles du régime jusqu'à la chute du dictateur le 11 avril dernier.
On était 9 femmes dans une cellule de 24 mètres carrés. Il n'y avait pas de fenêtre, pas d'air qui rentrait. On dormait par terre et on n'avait pas le droit de voir le soleil. On a toutes eu des démangeaisons et plaques qui sont apparues sur le corps. C'est une forme de torture médicale et de torture psychologique. L'ancien régime est le pire régime de l'histoire pour les femmes. D'abord à cause de la loi sur l'ordre public, clairement contre les femmes. Là, si je marchais dans la rue comme je suis avec les cheveux apparents, je pouvais être arrêtée et frappée. Et puis il y a toutes les violences contre les femmes au Darfour, où le viol est utilisé comme une arme de guerre.
Opprimées pendant 30 ans par ce régime militaro-islamiste, les femmes activistes sont en première ligne de cette révolte qui grondait depuis des années. Awadeya Mahmoud Koko a 56 ans, connue deux révolutions. Son engagement a commencé quand elle s'est mise à vendre du thé dans les rues de la capitale soudanaise.
La police prenait notre vaisselle, nous mettait des amendes et nous humiliait. Comme si vendeuse de thé était une insulte. Alors j'ai décidé de créer un syndicat pour unir nos forces, pour régler nos problèmes ensemble et récupérer nos outils de travail. Aujourd'hui, on est 27 000 membres. J'ai toujours eu de l'ambition. Ici, on m'a surnommée la mère des révolutionnaires. J'aimerais avoir une place dans le gouvernement ou au Parlement pour continuer la lutte au nom des femmes.
Le 3 juin dernier, les milices de l'ancien régime ont voulu fracasser ces rêves de démocratie. À l'aube, ils ont délogé, massacré les manifestants qui dormaient sur le sit-in. Plus d'une centaine de corps ont été retrouvés. Des témoins racontent que les premières victimes étaient des vendeuses de thé installées aux entrées du rassemblement. À Khartoum, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Rachid Saïd Yagoub, porte-parole en exil de l'Association des professionnels du Soudan, l'une des principales composantes de l'opposition civile. On entend ces femmes qui ont uni leurs forces, qui ont de sacrés caractères apparemment. Comment s'organise aujourd'hui, après cette répression du sit-in, comment s'organise la résistance depuis la nouvelle répression il y a 2 semaines ?
Depuis la nouvelle répression, on n'a pas changé de mode de résistance. Les gens sont dans la rue. On a organisé le grève générale la semaine dernière et le mouvement de désobéissance civile qu'on a suspendu à la demande de la médiation éthiopienne, qui était une grande réussite, avec un taux de participation qui a dépassé le 90%.
Ça a paralysé Khartoum.
Qui a paralysé tout le pays, parce qu'on parle seulement de Khartoum, mais oui. Toutes les grandes villes du pays ont été paralysées.
Et ça fait pression sur les militaires.
Ça fait beaucoup de pression sur le conseil militaire, et c'est ce que poussait le conseil militaire hier à reconnaître sa responsabilité
dans
la planification de ce massacre de 3 juin. On a demandé, on a mis 4 conditions sur la table pour reprendre la négociation avec le conseil militaire. On a demandé la libération des prisonniers politiques, chose faite. On a demandé aussi la constitution d'une commission d'enquête internationale qui n'a pas fait, mais malgré tout, ils ont constitué quand même une commission d'enquête nationale, qu'on ne fait pas confiance, mais il est là. On a demandé aussi de retour du service de l'Internet, parce que vous savez, depuis 10 jours, il n'y a plus d'Internet au Soudan, on ne peut plus communiquer par 3G, par 4G.
Manière de paralyser voilà, aussi paralyser les mouvements
pays,
citoyens.
Voilà, et de ne pas permettre l'envoi des photos et des vidéos des massacres qui commencent à sortir aujourd'hui. On a aussi demandé à ce que le Conseil militaire revienne à l'accord qu'il avait dénoncé. Parce qu'on avait trouvé un accord sur 95% de structures de l'État de transition, de gouvernement de transition, et que le Conseil militaire avait dénoncé quelques jours après le massacre du 3 juin. Ils ont accepté de revenir à l'accord et que la négociation commence où on a été arrêté la dernière fois.
Il y a des émissaires à Khartoum, Éthiopie, Union africaine, États-Unis. On évoque une reprise des discussions indirectes pour l'instant.
Oui, pour nous, pas question de discuter avec les militaires maintenant directement. Tout d'abord parce qu'ils continuent à massacrer les gens, ils continuent à faire des exactions partout. On n'est pas prêts à mettre la main avec ces gens-là.
Les Janjaweed sont toujours dans les rues.
Ils sont partout dans les rues de Khartoum. Ils ont même renforcé leur présence depuis quelques jours. Et la deuxième chose, parce que les militaires ne respectent pas leurs paroles. Chaque fois qu'on fait un accord, il revient sur l'accord. Et c'est pour ça qu'on veut des témoins internationaux aujourd'hui pour nous aider à conclure l'accord.
Rachid Saïd Yagoub, vous êtes co-signataire d'une tribune publiée mercredi dans Libération qui s'appelle « Soudan, rompre le silence ». Vous y appelez la communauté internationale et en particulier l'Union européenne à faire pression sur le Soudan, sur l'ONU, pour que les militaires ne soient plus considérés comme des interlocuteurs.
Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine est très engagée au Soudan par la médiation et par la présence de son envoyé spécial permanent à Khartoum pour aider à la transition civile. Les Américains sont très présents, le sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines était à Khartoum. Les Européens sont les grands absents avec la Ligue arabe. La Ligue arabe, on comprend parce que les pays arabes, c'est les seuls qui soutiennent les militaires aujourd'hui, notamment l'Égypte, les Émirats et l'Arabie saoudite. Mais l'absence de l'Europe est quand même
problématique.
Et je pense qu'il y a une proposition qui va être sommée au Conseil des affaires étrangères européen le 17 pour nommer un envoyé spécial européen pour le Soudan.
Demain pour
ça.
D'accord. Dans une autre tribune publiée mardi dans le magazine américain Politico, l'acteur George Clooney, vous savez, qui est cofondateur d'une ONG qui traque les transferts financiers illégaux des criminels de guerre, notamment en Afrique. George Clooney donc appelle les gouvernements, notamment américains, à infliger des sanctions financières aux militaires parce qu'ils bafouent les droits de l'homme. Les avoir au portefeuille, c'est aussi une solution intéressante.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le Soudan est sous sanctions de tous les pays et les sanctions contre le pays, pour les militaires, ils s'en foutent. C'est les populations qui payent le prix fort de ces sanctions. Et c'est pour ça que l'appel de John Clooney était bien accueilli au Soudan, parce qu'il appelle à sanctionner ses militaires sur leur portefeuille, sur leurs comptes à l'étranger, parce qu'on sait qu'ils ont des comptes à l'étranger, et notamment dans des pays arabes, et même en Biélorussie.
La résistance des Soudanais se poursuit pacifiquement, et il est important de continuer à parler de cette révolution après 30 ans de dictature islamo-militaire. Merci beaucoup, Rachid Saïd Yagoub.
Merci pour vous.
D'être venu à Europe 1 aujourd'hui.
Europe 1.
C'est ça, les carnets. On passe du Soudan au Vatican. Des femmes militantes vendeuses de thé à Khartoum à la place des femmes dans l'Église catholique. Pas du tout le même combat, mais c'en est un quand même. A tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Sophie Larmoyer. On va maintenant s'intéresser à la place des femmes dans l'Église catholique.
Chez les catholiques, plus de la moitié des religieux sont des religieuses. Et pourtant, au Vatican, lieu de l'exercice du pouvoir, elles sont largement minoritaires. Mais elles ont bien l'intention de faire bouger les lignes à travers différentes initiatives. À l'intérieur même des murs du Saint-Siège, la gente féminine s'organise pour se faire une place dans cette institution très masculine et qui s'ouvre si difficilement au sexe opposé. Un changement porté aussi par les scandales d'abus révélés ces derniers mois qui ont libéré la parole face à la domination des hommes d'église. Reportage à Rome de Blandine Hugonnet.
À quelques minutes du Vatican, sur un petit terrain de foot, une équipe s'échauffe pour son match. Maillot jaune, chaussettes jusqu'aux genoux et crampons aux pieds, mais aussi queue de cheval et boucle d'oreille. La vingtaine de joueuses sur la pelouse travaillent pour le pape. C'est la toute première équipe féminine de football du Vatican.
Moi, je suis défenseur à droite quand on joue à 11 et milieu de terrain à 5. Et ce soir, on joue à 5.
Barbara fait partie de l'équipe depuis sa création, il y a tout juste 2 mois.
Déjà, associer foot et femmes, c'est pas toujours courant. Alors imagine pour le foot féminin au Vatican. Le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, les femmes sont les égales des hommes. Et on veut aussi être un exemple pour toutes les femmes qui travaillent au Vatican, pour rappeler la grande mixité de ce petit État.
Comme ces footballeuses, de plus en plus de femmes du Vatican s'organisent entre elles pour se faire une place. Face à la basilique Saint-Pierre, la salle de presse du Saint-Siège. C'est là que travaille Romilda Ferraotto. Il y a 2 ans, cette franco-italienne a fondé avec des collègues la toute première association des femmes du Vatican. Une façon de se serrer les coudes dans une institution masculine où certaines se sentent parfois très isolées. Après 35 ans de carrière au Vatican, Romilda Ferraotto est une des premières à s'être hissée à un poste à responsabilité. Mais aujourd'hui, elle ressent encore des résistances.
Moi, j'ai vu changer les hommes énormément, mais il m'est arrivé encore récemment de me trouver dans un bureau, seule femme avec des hommes. Et puis, après là, est entré dans la pièce, il a salué tous les hommes et il ne m'a pas vue. Pourtant, j'étais là. Donc, venir travailler au Vatican demande quand même un certain courage, une certaine audace. Ça peut être un petit combat quotidien, une lutte quotidienne.
Aujourd'hui, au Vatican, un fonctionnaire sur 4 est une femme. Et pour qu'elle soit plus visible, une journaliste autrichienne de Radio Vatican a entrepris de les recenser. Verdict de Gudrun Seiler. Depuis l'arrivée du pape François il y a 6 ans, les femmes accèdent à de meilleurs postes.
Sous le pape François, on a vu une première femme devenir directrice des musées du Vatican. C'est clairement un poste de prestige. Et puis à la Curie, qui gouverne l'Église universelle, aujourd'hui, on a 3 sous-secrétaires qui sont des femmes. Je crois que le pape François est le premier qui a compris, comme aucun autre pape avant lui, qu'il n'est plus possible d'exclure les femmes des postes de décision de l'Église catholique.
Pour essayer d'avoir droit au chapitre à l'intérieur du Vatican comme en dehors, il y a 7 ans, derrière les murs du Saint-Siège, un magazine a été lancé. Donné Chiesa Mondo, Femme, Église, Monde, le magazine féminin du Vatican. Un mensuel dirigé depuis peu par Rita Pinci, journaliste, catholique et féministe.
Le mensuel, c'est donner la parole aux femmes parce qu'elles sont plus de la moitié des fidèles. Et en ce moment, il y a un grand débat dans l'Église sur la reconnaissance du travail des femmes. Parce qu'ici, comme partout, les femmes doivent parfois se battre pour que leurs capacités soient reconnues.
Ces derniers mois, le magazine féminin du Vatican a joué les lanceurs d'alerte en révélant pour la première fois que des religieuses ont été exploitées et violées par des hommes d'Église. Un tabou brisé par l'historienne Lucetta Scarafia, fondatrice du mensuel.
Chez des monseigneurs ou des évêques, des religieuses qui faisaient la vaisselle, qui faisaient toutes les choses de la maison et qui étaient comme une servante. Elles n'étaient presque ou pas payées, elles n'avaient pas des horaires de travail, c'était tout le temps, et elles ne faisaient pas de vacances. C'était une chose que tout le monde connaissait, mais personne ne le disait. Mais la dénonciation des abus sexuels des religieuses, c'est déjà un combat très important, car les abus sexuels signifient même l'avortement. Les prêtres qui l'ont violé, ils payent l'avortement. C'est le maximum de l'hypocrisie dans l'Église.
Mais le combat de Lucetta Scarafia au Vatican a pris fin. Les femmes qui s'expriment dérangent toujours, affirme la voix féministe du Saint-Siège, qui a claqué la porte en mars dernier.
Si une femme a quelques projets dans l'Église, il faut qu'elle soit obéissante et ne parle pas. C'est une hiérarchie masculine, la dernière forme de patriarcat qui a resté. Mais les femmes peuvent occuper presque toutes les places du Vatican, même si elles ne sont pas prêtres. C'est une habitude. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de loi canonique qui disent que pas possible. Il faut que les femmes obligent l'Église à changer.
Pour l'instant, seul le souverain pontife a le pouvoir de changer les choses. Le pape François a lancé une importante réforme de la constitution de l'Église il y a 5 ans. Dès cette année, elle pourrait ouvrir pour la première fois des postes haut placés à des femmes au Vatican. Encore faut-il que les prélats acceptent de travailler sous leurs ordres. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et Blandine Hugonnet est en ligne avec nous. Bonjour Blandine.
Bonjour.
On l'a entendu dans votre reportage, hein, l'ancienne directrice et créatrice du magazine féminin du Vatican a claqué la porte. Est-ce qu'elle explique pourquoi ?
Alors, pour justifier son départ, Lucetta Scarafia affirme que son équipe a été mise sous tutelle, une mise sous tutelle par le nouveau directeur de l'Osservatore Romano, c'est le quotidien historique du Vatican, dont le magazine féminin est le supplément chaque mois. Impossible, dit-elle, de continuer à parler des femmes librement au Vatican, réduite au silence, affaiblie, placée sous le contrôle des hommes. Nous nous sentons entourés par un climat de méfiance. C'est ce qu'ont écrit au pape François les 9 femmes qui sont parties avec Lucetta Scarafia. Un départ collectif qui a fait grand bruit. Ici, il est intervenu un mois seulement après la publication dans leur magazine d'un article qui révélait le scandale des abus sexuels sur les religieuses par des prêtres. Et il faut savoir aussi que c'était 3 mois après la nomination de ce nouveau directeur au-dessus d'elle. Mais il faut remettre ça dans le contexte d'une très vaste réforme qui a chamboulé toute la communication du pape. Des changements d'hiérarchie comme celui-là, il y en a eu beaucoup ces derniers mois au Vatican.
En tout cas, pas facile, on le comprend, d'être une femme dans l'Église. Et de plus en plus, elles ont des revendications. Qu'est-ce qu'elles demandent ?
Alors, elle revendique avant tout une plus grande égalité avec les hommes. C'est par exemple le cas des catholiques d'Allemagne. Il y a un mois, des centaines de femmes ont fait grève dans tout le pays. C'était une première. Un boycott des églises pour protester contre une institution jugée misogyne, alors que ce sont elles qui s'activent toute l'année pour préparer les offices et assister les prêtres dans les paroisses. Certaines demandent même que les femmes puissent devenir prêtres comme les hommes. Mais alors là, du côté du Vatican, c'est clairement pas à l'ordre du jour. Le Saint-Siège a fait une mise au point l'an dernier. Les femmes prêtres, c'est un nom définitif. Et puis, dernière piste d'évolution dans l'Église, comme l'eau de consolation, pouvoir devenir diacre, l'ordre juste en dessous de la prêtrise qui permet de célébrer des baptêmes ou des mariages. Mais rien n'est encore fait. Il y a 3 ans, le pape a créé une commission pour savoir si par le passé, dans l'histoire de l'Église, il avait existé des femmes ordonnées diacres. Et si oui, le Vatican pourrait autoriser les diaconesses, mais pas partout. Hein. Ce serait réservé uniquement à l'Amazonie pour faire face à un grand manque de prêtres dans la région.
On comprend qu'on est encore très loin d'une révolution. Hein. Décidément, les résistances sont encore bien présentes. Merci beaucoup, Blandine, pour ce coup de projecteur sur la place des femmes dans l'Église et à très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Europe 1.
Alors que les températures ont commencé à bien grimper dans certaines régions cette semaine, Joseph a médité sur l'accès à l'eau. Car non, il ne suffit pas toujours de tourner le robinet. A tout de suite pour un petit voyage en Autistan.
Europe 1, les carnets du monde.
La seule émission de radio qui nous emmène chaque semaine en Autistan, c'est la vôtre, Sophie Larmoyer, les carnets du monde, une virée hebdomadaire que l'on doit à Joseph Chovanec.
C'est une autre manière de regarder le monde, faite de philosophie, d'érudition et d'un brin d'autisme. Et c'est cadeau chaque dimanche, cette petite virée en Autistan. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Dans quelques jours, ce sera l'été qu'on espère beau et chaud. Enfin, un peu, pas trop quand même. Et cela vous inspire quelques réflexions sur notre accès à l'eau.
Oui, Sophie, l'autre jour, une amie autiste, Amélie, m'a fait remarquer que l'accès à l'eau dans la plupart des cultures était le socle de l'humanité. Offrir un verre d'eau aux voyageurs ou à l'étranger, c'est un devoir. Mais en Occident, de plus en plus, par exemple dans les gares françaises modernisées, il est impossible d'obtenir de l'eau gratuitement. Elle est soit au prix fort aux distributeurs, soit dans les toilettes, mais celles-ci sont aussi payantes.
Pour vous qui voyagez beaucoup, cette question est plus aiguë dans les pays très chauds, évidemment.
Oui, évidemment, Sophie. Comment faire quand les températures grimpent au-delà de 40 ou 50 degrés hein? Lors de mes premiers voyages dans des pays chauds de ce type, en Iran ou en Israël, je me posais beaucoup de questions. J'avais beaucoup d'appréhension, mais pas celle-ci. Les fontaines et les robinets y abondent un peu partout. En Iran, notamment, j'ai été très impressionné par des espèces de grosses boîtes métalliques, parfois un peu rouillées d'ailleurs, que l'on trouve dans les rues. et d'où sort l'eau comme par enchantement quand on tourne un robinet. Au début, je n'osais pas, j'avais peur de tomber malade. Mais un jour, je visitais la ville de Yazd dans les déserts, ville multimillénaire. Et là, je n'ai pas eu le choix. Je tournais à mon tour le robinet métallique et j'ai bu. Et depuis lors, j'ai testé toutes les boîtes métalliques à eau d'Iran qui étaient sur mon chemin et je n'ai jamais eu de problème d'estomac.
Ouais, parce qu'on conseille quand même toujours aux voyageurs de faire attention à l'eau qu'on leur propose. Et c'est vrai que parfois, c'est limite. Hein.
Ah Sophie, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de lieux du monde, la fierté des gens, c'est la qualité de leur eau. Hein. L'autre jour, j'étais en Corse et j'ai été frappé par l'émotion qui s'était emparée de mes amis quand ils m'ont parlé puis fait visiter le site historique de la source de l'eau d'Oretsa. Bien entendu, on peut la boire sur place gratuitement. Et loin d'y voir une perte de chiffre d'affaires, le propriétaire tire sans doute de ce partage une grande joie.
Il y a quand même des lieux où cette question de la source est vitale. Je pense à des endroits que vous aimez particulièrement, Joseph, les déserts.
Évidemment, c'est là que le phénomène est le plus clair. Ouais. Les localités sont souvent nommées d'après leurs sources d'eau. Dans le monde arabophone, mais aussi en Israël, d'innombrables villages ont un nom qui commence par Be'er, littéralement le puits, ou encore Aïn, la source, ou plutôt l'œil, parce que dans la culture sémitique, la source, c'est l'œil de la terre. Uh-huh. Et certaines sources sont plus illustres que les autres. Dans l'islam, la plus illustre de toutes, c'est l'eau dite Zamzam, qui jaillit au pied même de la Kaaba à la Mecque. C'est une eau mythique d'entre toutes qui a été bue par les fils d'Abraham, mais aussi par le prophète de l'islam, Mohammed. Et la tradition aime à en citer le commentaire, je cite, hein, « Elle est une bénédiction aussi nourrissante que le pain », fin de citation. Il se trouve que j'ai moi aussi mon petit point d'eau préféré, c'est mon petit secret. Certes, je n'en suis pas le propriétaire, mais qu'il est réellement du désert infini. C'est plutôt le désert qui vous possède.
Mais alors, Joseph Wettel, cette source préférée, dites-nous.
Alors, elle est au cœur du Sahara, aux confins du Maroc et de la Mauritanie. Quand vous êtes à la ville côtière de Dakhla, une piste part vers l'intérieur. À l'issue d'une longue route, vous parviendrez peut-être au lieu dit Imlili. Sitôt les dunes franchies, un panorama irréel s'offre aux yeux. Dans le plus hostile des déserts, des petits lacs. On ne sait pas d'où vient leur eau. Y vivent des poissons, des espèces étranges, confinées dans un tout petit espace au milieu de l'immensité brûlante. Des miracles du désert, miracles de la vie sans doute. Un peu d'ailleurs à notre image, nous autres les poissons à deux pattes qui tournons dans un petit boucal. N'oublions pas la leçon de sagesse des mamies créoles. Apoué ou boué, Adam en ma, faut pas ou caca, Adam y. Hein. Après avoir bu dans une mare, il ne faut pas la salir de ses déchets. Grande leçon de philosophie de vie.
Voilà, pour dire que l'eau est précieuse finalement. Merci Joseph, je sais pas où vous trouvez vos dictons, mais ils me réjouissent à chaque fois. À dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer ces carnets du monde. Merci d'en avoir tourné les pages avec nous, de nous avoir accompagnés sur Europe 1. L'équipe en coulisses, c'est Sophie Mallier à la réalisation et Florence Gimalac à la production. Merci à elle. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. On sera là à 13h sans faute. D'ici là, merci d'écouter Europe 1 et portez-vous bien.
À dimanche prochain, ça fait Larmoyer.